PMU.fr est fier de soutenir Vue du Banc. Parce que pour bien parier, il faut bien comprendre le jeu.
Salut à tous, on se retrouve pour le quatrième épisode de la saison 5 de Vue du Banc. Aujourd'hui, pour débriefer les nombreux matchs de Ligue des Champions, et notamment ceux de Lyon contre Manchester City, et celui du PSG en déplacement en Anfield. Je suis aujourd'hui accompagné des mêmes que d'habitude, les complices Bataille et Fontaine. Salut Christophe.
Salut Raphaël, est-ce que je suis Bataille ou est-ce que je suis Fontaine?
Je crois que tu es Bataille parce que tu es plus grand que Florent, qui du coup sera Fontaine, le petit malicieux. Salut Florent.
Salut.
T'as pas l'air ravi par ce sobriquet, mais écoute, il faut qu'on innove un peu et il y a franchement plus grand monde sur cette liste de surnoms qu'on a préparé depuis quelques temps. La semaine dernière, j'étais qui moi déjà? J'étais très mauvais. Je sais plus qui tu nous avais donné.
J'étais Arnold et Willy.
Ah, Arnold et Willy, très bien, ok. Là, c'est un peu plus français. Messieurs, passons au sérieux, passons au match. On va commencer par le plus récent, le plus frais, celui entre Manchester City et Lyon, avec la victoire de l'OL, 2-1. But de Cornet et Fekir, but de Bernardo Silva côté City. Un City pas au même niveau que d'habitude, Florent, et pas au niveau surtout qu'on aurait espéré voir de la part d'un club qui en championnat va plutôt bien. C'est aussi ce qui a permis à Lyon de créer cet exploit, même si Lyon a plutôt bien défendu ce qu'il a voulu faire. Et ça, tu peux l'attribuer à Genesio, mais il a eu la chance et la circonstance d'affronter un City assez mal en point.
Oui, on avait parlé avant, dans notre dernier épisode, dans notre épisode précédent, de l'habitude qu'avait l'OL de ne pas passer à côté des gros matchs, c'est-à-dire qu'ils les gagnent ou qu'ils les perdent, généralement ils se rataient pas face à un gros adversaire. On avait parlé de l'exemple de la Juventus, d'un match qu'ils n'avaient pas su aller chercher. Là, en l'occurrence, ils ont fait un très bon match. Normalement, enfin c'est un très bon match qu'on attendait de leur part. Normalement, un très bon match n'aurait pas dû suffire face à un très bon City. Et là, en l'occurrence, ils sont tombés contre un mauvais City. Ils n'ont pas eu à aller chercher la victoire, puisque la victoire leur est donnée sur les deux buts avec la grosse erreur de Delph qui alors qu'il doit peut-être rassurer en dégageant un corner, essaie de faire un extérieur et puis il la donne à Cornet. Très belle passe décisive. Et le deuxième, c'est, alors on peut tomber sur Fernandinho et la balle perdue. Je pense aussi que Laporte n'a absolument pas à lui mettre cette passe à laquelle je pense Fernandinho ne s'attend pas du tout, et c'est pour ça qu'il la perd. Certes, après, il y a le pressing de Fekir qui va la chercher et qui finit parfaitement l'action. Mais voilà, il y a un très bon match de l'OL d'un côté, mais il y a aussi un très mauvais match de City. Et pour avoir un jugement équilibré sur l'affaire, il faut aussi le mentionner. Et sur dès la compo de départ en fait de Manchester City, on pouvait se poser quelques questions. Et d'ailleurs, avec Christophe, on discutait en off avant le match. On n'a pas pu le faire en direct, etc. Mais c'est vrai que cette compo de City, quand on l'a découvert, alors certes, on voyait la compo de l'OL, on se disait, bon, bah, ils tentent quelque chose, parce que de toute façon, vu la dynamique, il faut tenter quelque chose de leur côté. Mais quand on a vu la compo de City, on s'est pas dit que l'OL allait gagner, évidemment, mais on s'est dit, avec ce 11 de départ côté City, ça facilite un peu la tâche de l'OL, du moins que ça réduit l'écart entre les deux formations, quoi.
Alors avant qu'on s'intéresse au côté individuel dont on fait partie un peu cette composition, parce qu'il y a des joueurs qui posent question à City, Christophe, il y a des questions autour du plan de jeu de Genesio et surtout du résultat que ça a donné, notamment Lucas Fèvre sur Twitter qui demande si Genesio a réussi un véritable coup tactique ou s'il a été en réussite. Il y a un peu des deux, je dirais pas que c'est un coup tactique de mon côté, je dirais que c'est une équipe qui a été organisée de manière cohérente et qui a plutôt bien défendu sa partie de terrain. Et après, ils ont su saisir les nombreuses chances que leur a offert City, peut-être qu'il en a offert plus que d'habitude.
Ouais, pour moi, le côté victoire tactique, c'est un terme qui est un peu galvaudé. T'as quand même beaucoup de matchs qui sont pas des victoires tactiques, qui sont simplement des entraîneurs qui mettent leur équipe dans les meilleures conditions de s'imposer. Et après, ça reste sur les individualités. Une victoire tactique, pour moi, c'est vraiment ce que fait Conte avec l'Italie contre la Belgique à l'Euro, par exemple. Là, c'est vraiment, t'as vraiment une espèce d'invention. Là, bon, le système, déjà, 4-1-4-1, est-ce que ça rend un 4-1-4-1, est-ce que c'est un 4-2-3-1, finalement, assez classique?
C'était plus un 4-2-3-1 qui défendait 4-1-4-1, pardon, de manière 4-4-1, très compacte, mais oui, avec un Fekir derrière Depay, quoi.
Oui, c'est ça, mais je veux dire, le système, le dispositif, t'as pas non plus une énorme invention. Mais ce qui est intéressant dans ce que fait Genesio, c'est simplement que, on va dire que ses consignes étaient bonnes, elles ont été bien appliquées, à la fois trouver les bons moments pour presser, pour ne pas presser. Le fait que Lyon, par exemple, alors ça a pas mal retenu l'attention des gens, mais aille chercher très haut dès le coup d'envoi sur la toute première séquence, ça a été beaucoup moins le cas après, mais rien que ça, ça montrait déjà une intention. Et le fait que Lyon n'allait pas forcément arriver en victime expiatoire. Après, oui, victoire tactique, il y a des choix qui ont été bien faits, mais pour moi, c'est avant tout la composition de départ qui est bonne, notamment le fait d'aligner Pape Diop, qu'on a à peu près jamais vu avec Lyon, en binôme avec Ndombele. Le fait de mettre Fekir dans cette position juste derrière Depay, tu choisis bien tes hommes et tes hommes ont répondu présent. Et dans toutes les zones clés, tu as réussi à la fois sur des 1 contre 1, mais sur des 2 contre 2, si tu prends les paires de côté, par exemple. Lyon a réussi à être dominateur dans ce secteur-là. Mais c'est vrai que nous, par exemple, on n'aime pas trop parler de duel parce que parfois, les entraîneurs disent « oui, on a gagné, on a perdu les duels » et résument des matchs là-dessus, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Là, pour le coup, c'est presque l'inverse. J'ai l'impression que beaucoup de gens inventent des faits comme quoi Lyon aurait eu une tactique incroyable et que c'est une victoire tactique. T'as aussi, malgré tout, le truc simple qui est que Lyon a gagné la plupart de ses duels sur le terrain. Et finalement, la grande force de la tactique lyonnaise, c'est d'avoir réussi à provoquer ces duels-là sur le terrain, plutôt que de, par exemple, d'attendre derrière et de subir, et là, de n'avoir aucun duel à disputer sur le terrain, sauf ceux à l'approche de ta propre surface.
Bah, si on s'intéresse justement à ce plan de jeu qui ressemblait un peu à celui qu'avait eu l'OL contre le PSG l'an dernier, je trouve, Florent. D'ailleurs, le score, je crois, est un peu similaire. Ça finit à 2. Ouais, ça avait fini par un 2-1 aussi. Il y avait une paire qui était essentielle, Christophe a parlé de paire, c'était celle formée par Ndombele et Diop qui avaient en charge notamment les déplacements de David Silva et Gundogan, et ils l'ont plutôt bien fait, ils ont su suivre leur adversaire mais revenir un peu en zone au moment où l'adversaire allait un peu trop loin, rester compact, et puis après ils ont mis un impact physique avec lequel City a eu beaucoup de problèmes et n'a pas su répondre sur ce côté-là, plus à la qualité technique d'un Ndombele qui est sans doute peut-être pas le meilleur du match parce qu'il y a des débat là-dessus, mais celui qui en tout cas a fait le plus avancer son équipe.
Ouais, moi c'est surtout la presta, plus que ce qu'ils ont fait sans le ballon en fait, c'est ce qu'ils ont fait à la récup qui m'a marqué. C'est les bons choix d'Aouar, notamment pour lancer l'action du premier but qui finit sur un centre avec Cornet après au deuxième poteau. C'est aussi Ndombele qui part deux fois, une fois en première mi-temps, une fois en deuxième. Envoie des passes en profondeur très très bien senties. La première, Cornet légèrement hors jeu. La deuxième, Depay a la balle de 3-0 ou 3-1, je sais pas.
Ça va sur le poteau, je crois.
Et ça finit sur le poteau. Et c'est surtout sur ces points-là, c'est-à-dire c'est à la récupération du ballon, moi, que je les ai trouvés très bons et de niveau Ligue des Champions. Après, oui, ils ont été. les deux ont fait un bon match. Après, Diop, comme tu le disais, ça suivait Silva et Gundogan parfois un peu trop. Du coup, ça laissait quand même des espaces pour notamment des passes directes vers Gabriel Jesus, pardon. Donc, c'était pas non plus parfait. Après, en défense, ils ont quand même aussi pu s'appuyer sur un bon contrôle de la surface de réparation. Alors, certes, il n'y avait pas Agüero en face. En tout cas, il est rentré qu'en fin de partie. Et c'est quand même lui, le joueur de surface, généralement, qui, dans les petits espaces, arrive à couper avant, etc. C'est un joueur beaucoup plus à l'aise que Jesus dans ce domaine-là.
Il a eu 2-3 occasions, d'ailleurs.
Il en a eu 2-3. Il y en a une qui se crée tout seul. Et je crois que c'est Lopez qui l'a dévié en corner en toute fin de match. Mais Denayer et Marcelo. Alors, Denayer a eu quelques moments où il s'est fait peur avec le ballon dans les pieds. Par contre, c'est vrai que dans la surface, les deux ont dominé. Je crois Marcelo termine avec 10 dégagements, Denayer avec 6. Et il y a eu aussi énormément de passes ou de centres bloqués quand City arrivait à créer un décalage, arrivait à déborder et qu'il fallait finir avec un centre hors-trait ou un centre fort devant le but comme ils aiment le faire. Et très souvent à ce moment-là, il y avait un pied lyonnais, il y avait un retour. Et du coup, ça réduisait l'action à néant. Donc dans ce domaine-là aussi, en dernier recours, j'ai trouvé presque plus que les milieux, j'ai trouvé que la défense a fait un bon match. Et en plus, Lopez, qui au final n'a pas d'énormes parades à faire, mais il a des frappes fortes où il doit se coucher vite. Ouais. Heureusement pour lui, elles n'étaient pas aussi bien placées, par exemple, que la frappe de Fekir. Mais il finit quand même le match avec 7 arrêts, et ça aussi, c'est à mentionner, je pense.
Ouais, alors, il y a Christophe, il y a S-Trek qui nous demande sur Twitter, est-ce que Lyon a joué en mode Atletico ? C'est vrai que sur le système de jeu et le bloc compact et la capacité à contrer rapidement, il y avait des points communs. Ce qui était intéressant aussi, c'est la manière dont... Par exemple, les latéraux ont défendu, par exemple, la manière dont Denayer et Marcelo ont défendu la surface, comme l'a dit Florent. Et puis après, il y a la qualité de contre-attaque, où là, tu as vu un peu ce que tu es capable de faire des Fekir, des Aouar à la transition. Alors, Florent en a parlé. Et puis, un Depay qui, dans un rôle un peu compliqué face à deux centraux, a finalement dominé. Et c'est aussi là que City paye sa composition et peut-être des limites individuelles, c'est que j'ai l'impression que Stones et Laporte en Ligue des Champions, ça atteint vite un plafond sur le côté vraiment défensif, qui n'est pas forcément très fréquent, parce que souvent c'est tiens le ballon, mais quand ils doivent défendre, ils ont beaucoup de mal. Même des ballons aériens, des longs dégagements de Lopez qui retombent quasiment proche de la surface d'Ederson. Et là-dessus, Laporte et Stones sont vraiment fébriles.
Ah, déjà, les deux ont pas fait un bon match par rapport à leur standard. C'est-à-dire, tu peux discuter du fait que Stones et Laporte soient des défenseurs corrects, moyens, bons, très bons, mais Laporte ne fait pas des matchs aussi mauvais toutes les semaines. Je pense que ça doit être son pire avec City. Après, c'est vrai que de manière générale, ils sont pas forcément testés sur ces situations-là aussi parce qu'ils ont une meilleure protection. Et souvent, en fait, pour faire la différence contre City, tu pars sur les transitions, mais t'es pas forcément capable de faire ta transition dans l'axe. T'es obligé de partir sur le côté. Et sur le côté, bon, là, Mendy était blessé, mais sinon, c'est Walker et Mendy en couverture. Et c'est-à-dire que c'est quasiment impossible de les prendre de vitesse. Là, pour le coup, Lyon a quand même réussi à lancer pas mal de transitions. Alors, soit récupération dans son camp, soit des récupérations assez hautes. Donc, du coup, ta transition, c'est juste une passe des 30 mètres à la surface. Mais c'est vrai que déjà dans la zone de Fernandinho, tu étais assez dominateur. Donc, du coup, tu pouvais essayer d'attaquer la porte Stones. La vraie, c'est vrai que tu as une vraie interrogation sur ces deux-là. Et en fait, si tu extrapoles, tu peux te demander pourquoi est-ce que Otamendi est sur le banc depuis le début de saison. Et c'est vrai que c'est une interrogation parce que du coup, Laporte, qui n'est pas un défenseur gauche mais qui réussit à plutôt bien tenir le poste l'année dernière quand il était arrivé, il avait joué pas mal de matchs à ce poste-là. Et tu dis que si tu mets Otamendi sur un poste de central, bah du coup, tu peux décaler Laporte à gauche et ça t'empêche d'avoir Delph titulaire à gauche. Alors, Delph pour le coup fait plutôt une bonne saison l'an dernier en étant aligné à ce poste-là, surtout avec le ballon, en étant assez axial et en permettant des relances. Mais là, alors Walker, il y a des doutes sur son réel niveau pour moi, mais ça reste quand même un joueur qui a des qualités. Mais c'est vrai que Stones, Laporte, Delph, si tu prends ce trident-là dans cette forme-là, non seulement c'est pas forcément meilleur, voire c'est même inférieur à Marcelo, Denayer, Mendy, mais tu te pose la question si tu vas un peu plus loin, parce que là c'est un match contre Lyon. A priori, c'est plus une bonne opération pour Lyon qu'une mauvaise pour City, parce que logiquement City doit quand même être capable en redressant un peu la barre de gagner ses 4-5 matchs suivants et donc de se qualifier. Mais si tu imagines cette équipe comme un candidat au titre en Ligue des Champions et que tu compares avec ce qu'il y a du côté du Bayern, du côté du Real, même du côté de Barcelone qui a des faiblesses défensives mais qui individuellement a des joueurs qui sont mieux capables de jouer des 1 contre 1 voire des 1 contre 2 sur des phases où l'équipe est déséquilibrée vers l'avant, c'est vrai que tu as des grosses interrogations. Après c'est toujours pareil, enfin je pense qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui vont dire ouais, on dévalorise trop la performance de City, mais en fait Lyon, même en faisant un match parfait, ne pouvait pas battre City si City ne faisait pas un mauvais match. Donc, ça n'enlève pas le bon match de Lyon. Et t'as simplement des différences quand même entre les deux équipes. Si City a marqué 100 points l'an dernier en championnat d'Angleterre, c'est pas pour rien. Ça reste une super équipe. Mais c'est vrai que si Depay fait vraiment un très bon match et peut exploiter toutes ses qualités de mobilité, etc., de vitesse et, finalement, toutes ces rares, alors c'est plutôt un bon numéro 9, mais il a quand même des lacunes à ce poste-là qui n'est pas le sien naturellement. Bah, ces lacunes que tu peux avoir dans certaines phases de jeu placé dans la surface, etc., tu les vois pas quand la plupart de ce qu'il a joué, c'est des transitions et où au final, il joue un peu comme Ronaldo quand Ronaldo a commencé à être placé dans l'axe, à savoir ouais. Courir et puis frapper et attaquer la défense. De
ouais, j'ai l'impression que dès qu'il y a un joueur un peu mobile à ce poste-là, et c'était le même cas avec Firmino quand Liverpool avait affronté City la saison passée, les centraux de City n'ont pas, eux, la mobilité, la vivacité pour réagir à ça. Tu vois, autant un Varane, par exemple, au Real, il va le faire, un Umtiti au Barça, il va le faire. Là, Laporte, Stones et même Otamendi, qui est plus fort défensivement, mais qui est aussi lourdeau. Tu vois, tu n'en as pas un des trois qui va être... Je me rappelle du Bayern de Guardiola, où parfois, par exemple, c'était Kimmich ou Alaba qui joue en défense centrale, où ça pouvait rivaliser sur ces attaquants un peu modernes. Là, tu n'as personne qui peut répondre à ces qualités par les mêmes qualités.
Oui, c'est vrai que du coup, en fait, le début du Barça de Guardiola, l'une des formules magiques, ça pouvait être de mettre un attaquant pivot. Et même si lui ne marquait pas les buts, bah, il embêtait la défense et t'arrivais sur les deuxièmes ballons qui traînaient à 25-30 mètres. Et là, ensuite, tu pouvais marquer un but à City. Là, et surtout au niveau supérieur, dès que t'arrives sur la Ligue des Champions, c'est de la mobilité qui embête vraiment cette équipe. Et sauf à être Diego Costa qui pour le coup peut embêter tout le monde sur juste sur son jeu de corps. En fait, un Depay peut être plus embêtant qu'un très grand attaquant et qui lui va être un attaquant pivot. Et c'est embêtant pour City parce que le système de jeu fait enfin du coup t'es amené à défendre des transitions et les équipes qui veulent la jouer vont plus facilement mettre des attaquants véloces. Et du coup, si tu n'arrives pas à défendre les attaquants que tu rencontreras le plus souvent et que les entraîneurs adverses vont mettre, tu vas vite être confronté à un problème.
Si on revient aux défenseurs centraux de Lyon, Florent, tu as parlé de Marcelo Denner et de leur boulot dans le contrôle de la surface. C'est aussi parce qu'en deuxième période, Manchester City a beaucoup plus poussé, a connu une meilleure deuxième période. Et peut-être que s'ils avaient démarré de la même façon, ils auraient pas eu autant de problèmes en première face à Lyon et pas perdu ce match.
Oui, alors. Après, il y a peut-être aussi l'aspect fatigue côté lyonnais qui les a naturellement fait reculer, mais c'est sûr que quand tu. Alors, il y a d'abord l'entrée de Sané qui remet Bernardo Silva dans l'axe, à un poste où il est bien meilleur que sur l'aile, on en avait déjà parlé, mais c'est un joueur qui va s'épanouir dans ce rôle dans l'axe. Il a déjà commencé à le faire d'ailleurs en championnat, j'étais surpris qu'il ne le soit pas au coup d'envoi. Et c'est vrai qu'on a vu quand même une vraie différence entre les demi-temps et une équipe de City qui a beaucoup plus facilement fait reculer l'OL en deuxième période qu'en première. Et je pense que c'était notamment dû à la présence des deux Silva dans l'axe, au fait que Gundogan s'efface un peu de cette zone et joue un peu plus haut. D'ailleurs, moi, personnellement, je m'attendais à ce que Gundogan sorte pour Agüero et qu'on bascule dans un vrai 3-5-2. Finalement, le deuxième changement a été un peu plus conservateur, vu que c'est, je ne sais plus qui est rentré. Ben, Agüero remplace Jesus et le troisième et dernier changement, c'est Mahrez qui remplace Sterling. Voilà pour les trois changements. Donc, mais c'est vrai que sur cette deuxième mi-temps de City, de toute façon, là, j'ai les stats sous les yeux en termes de tirs. En première mi-temps, on est à 9 tirs à 8 pour l'OL et en deuxième mi-temps, on est à 14 à 2 en faveur de Manchester City. Donc, voilà, il n'y avait pas photo entre les deux, mais l'OL a su aussi a su être réaliste. Voilà,
Et
je vais y
puis
arriver.
peu de grosses occasions pour City quand même. Alors, beaucoup de tirs, là je regarde la carte des tirs. Ils finissent à 1,2 au total sur une bonne vingtaine de tirs, si
Ouais, il y a
je suis
très
à peu
peu de
près à
grosses
l'œil. Il y
occasions.
a peu de gros carrés, alors que Lyon en a un énorme à l'entrée de la surface qui fait pas but, et un autre un peu moins gros qui par contre fait but, c'est la frappe de Fekir.
De cornet plutôt, je pense.
Bah,
De frappe
à
croisée.
l'extérieur de la surface, c'est Fekir. Après, à
Ah
l'intérieur,
oui, à
oui, c'est quand
l'extérieur,
même.
oui. Mais oui, bah, l'autre gros carré, ça doit être l'occasion de Depay, du
Ouais.
coup, qui finit sur le poteau, j'imagine. Mais oui, le vrai problème de City, c'était la qualité des tirs, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur Denayer et Marcelo, c'est le bon contrôle de la surface, le nombre de centres aussi coupés par les Lyonnais dans les deux zones excentrées de la surface de réparation, et ça a empêché City de trouver de bonnes positions, et à la fin, au final, la plus grosse occasion en deuxième mi-temps, à part le but de Marcelo, où justement, ils arrivent à trouver quelqu'un dans cette zone-là. C'est l'occasion d'Aguero qui se la crée tout seul en accélérant de l'entrée de la surface, quoi. Mais c'est vrai qu'ensuite, collectivement, City n'a pas trouvé la bonne carburation. Mais voilà, moi j'étais surpris sur les changements. Je pensais qu'ils joueraient quelque chose de vraiment offensif pour finir. Bon, on a décidé de pas mettre toutes les armes côté City sur le terrain pour réussir à revenir. Bon, ça n'a pas suffi. Tant mieux pour l'OL, du coup.
En parlant de coaching d'ailleurs, Christophe, Guardiola est toujours suspendu, il était en tribune pour cette rencontre, je crois, avec sa famille. C'était Arteta qui dirigeait à peu près le match sur le banc. Est-ce que tu penses qu'il a vraiment pris un rôle entier sur cette rencontre et que Guardiola lui a laissé la main? Parce qu'on a vu parfois des. Enfin, c'était une participation pardon, différente de la part de l'entraîneur. On sait que Guardiola est très animé sur le terrain, très agité, qui donne beaucoup de consignes. Arteta était plus dans le contrôle et dans l'observation. Ça a peut-être joué aussi, comme ça avait joué en deuxième période contre Liverpool en quart de finale la saison passée.
En fait, il y a deux choses. Il y a un, l'attitude du coach. Après, tu trouveras toujours des exemples de coachs qui ne disent rien, qui sont plus des observateurs. Genre Marcelo Bielsa dit très peu de choses et l'équipe répond généralement à ses demandes. Enfin, en tout cas, cette saison à Leeds. Et il y en a d'autres qui sont très animés comme Diego Simeone. Et pareil, l'équipe réagit et tu as toujours le cas inverse. Ben, voilà, selon, il y en a, on va trouver qui sont trop peu impliqués, mais c'est toujours en fonction des résultats, quoi. Là, c'est vrai qu'Arteta était assez sur la réserve, mais là où, en fait, ça peut avoir une influence, l'absence de Guardiola, déjà, je pense. Alors là, c'est vraiment purement de la spéculation, hein, mais connaissant un petit peu la manière de fonctionner de Guardiola ayant vu comme toi aussi le documentaire All or Nothing sur la saison dernière à City, on voit quand même que Guardiola aime bien déléguer. Il y a une préparation de match où il fait même pas vraiment de causerie, il laisse les joueurs préparer le match entre eux au cœur du Boxing Day. J'ai tendance à penser que, étant assez proche d'Arteta et Arteta étant destiné à devenir coach principal dans le futur, il aurait même pu être coach d'Arsenal cette année, c'est passé très proche avant qu'Emery passe devant lui au dernier moment. J'ai tendance donc à penser que Guardiola a laissé Arteta préparer ce match même en amont, au-delà du fait qu'Arteta a dû gérer le match depuis le banc de touche plus la causerie, le discours à la mi-temps. Et c'est vrai qu'en tout cas, tu vois, t'as des coachs dont l'influence se sent surtout dans l'avant-match, et Guardiola, lui, il aime bien changer les choses en cours de match, quitte des fois à prendre des risques au tout début et aligner des défenses à 3, puis repasser à 4 au changement, etc. Enfin, sur des petits signes. Et là, Arteta, je l'ai trouvé un peu en retrait. Il n'a pas forcément eu une grande influence sur le match sur le plan micro-tactique. Guardiola, contrairement à Simeone, qu'on avait vu la veille contre Monaco, hurlait ses consignes. Et pareil, quand il était suspendu en Ligue Europa l'année dernière, c'était pareil. Là, Guardiola, rien dit du tout. Donc, on peut considérer que c'est quand même Arteta qui a coaché le match. On ne sait pas si c'est lui qui l'a préparé. Et c'est vrai que pour le coup, Arteta ne se fait pas une super pub sur ses qualités de coach sur ce match, même si tu ne peux pas faire une corrélation directe entre la prestation des joueurs et le bon ou mauvais coaching, parce que ça reste des gens qui interprètent tes consignes, mais ils peuvent avoir des mauvais jours. Mais c'est vrai que Arteta, pour l'instant, sur les fois où il a été un peu responsabilisé, tu n'as pas forcément senti qu'il avait encore une énorme prise sur ce groupe. Alors, est-ce que ça veut dire que c'était la victoire de Genesio sur Arteta plutôt que sur Guardiola? J'ai tendance à penser que c'est un peu des deux, mais j'ai tendance aussi à penser que le retour entre les deux équipes, même le retour de Guardiola sur le banc en championnat, on verra quand même une différence, et que ça y aura un petit peu plus de poigne et de consignes, alors qu'Arteta était quand même vachement sur la réserve, et même sa compo d'équipe, on le disait tout à l'heure. Je sais pas si c'est lui qui l'a fait ou si c'est en
concertation. Non, c'est Guardiola qui l'a fait apparemment. Quand même.
C'est Guardiola qui l'a fait. Ouais. Mais en tout cas, ces changements, par exemple, il y en a certains où j'étais moyennement convaincu, tu vois. Le fait de faire pas mal de poste pour poste en fin de match, alors que t'aurais pu provoquer des plus gros déséquilibres, ça m'a pas passionné, quoi.
En tout cas, le Lyon a fait un énorme coup, parce que dans le même temps, le Shakhtar et Hoffenheim ont fait match nul. Je crois que c'est un match que vous avez vu en différé tous les deux, Christophe et Florent.
Non, en direct.
En direct, oui.
En direct, d'accord.
C'était à 19h.
Oui, parce que c'était le match de 19h, en effet. Ouais. J'avais oublié cette nouvelle donne en Ligue des Champions. D'ailleurs, j'ai raté le match de l'Ajax alors que je voulais le voir. Bref. Match nul de partout entre Shakhtar et Hoffenheim, deux équipes qu'on avait déjà évoquées lundi dans le podcast de prévu de la Ligue des Champions. Et cette rencontre a confirmé, Florent, qu'il n'y aura pas d'équipe en dessous dans ce groupe-là. Il y aura trois équipes qui vont se battre du coup pour la deuxième place. Peut-être pour la première, si Lyon arrive à capitaliser là-dessus. C'est-à-dire une question de Dimitri Thomas. Est-ce que Lyon ne risque pas de sous-estimer les problèmes qu'ils peuvent rencontrer face au Shakhtar et à Hoffenheim? Justement, parle-nous un peu de ce match et de ce que tu as vu de ces deux équipes.
Christophe confirmera, mais le premier renseignement, c'est que c'était un match très agréable à regarder. Deux équipes et deux plans de jeu qui sont quand même tournés vers l'avant, pas mal vers le pressing. Hoffenheim est capable d'alterner les deux, mais notamment quand même capable de défendre en bloc avec un, je crois que c'était un 5-3-2, hein, Christophe, côté Hoffenheim.
Oui, c'est ça.
Qui était capable aussi d'être très compact dans sa moitié de terrain, même si parfois ça suffisait pas forcément, parce que côté Shakhtar, on avait parlé de leur brésilien, là ils avaient un côté gauche très fort avec Tyson et Ismaili qui ont envoyé beaucoup, et ça allait très très vite sur ce côté gauche. Donc face au côté droit de l'OL d'ailleurs, qui est celui qui a le plus souffert, ça sera à retenir, je pense. Raphaël avait eu quelques difficultés, mais en même temps, vu les adversaires en face, c'était pas illogique non plus. Il risque d'en avoir aussi face au Shakhtar. Et après, côté Shakhtar, une défense pas imprenable, notamment quand elle décide de jouer haut et tout simplement la ligne. Plusieurs fois, le Hoffenheim a réussi à les enfoncer par des projections et des courses assez longues en profondeur. Le premier but d'ailleurs vient de là, sur une projection.
C'est aussi comme ça qu'ils avaient perdu contre la Roma la saison passée en Ligue des Champions.
Et puis après, le Shakhtar, en termes de points faibles, il y a aussi l'habituel Piatov, qui n'a toujours pas changé côté Shakhtar, et qui est toujours capable de faire une bourde ou deux par match. Là, il offre le 2-2 à, je crois que c'est Nordveit qui marque sur corner et qui égalise. ou qui redonne l'avantage.
Ouais, c'est le 2-1, parce que le 2-2 arrive en fin de match côté Shakhtar.
Je m'y perds avec tous les matchs qu'on a vus. Mais ouais, un match très plaisant, et deux équipes et deux coachs qui seront très bien préparés. Alors là, forcément, ça va être pour l'OL, il s'agira de confirmer le résultat face à City. Face à des adversaires très différents, et un Hoffenheim qui laissera peut-être plus l'initiative que le Shakhtar, qui aime plus aller chercher en général. Après avoir dans les faits, parce que comme on l'a dit, si les deux coachs voient par exemple en championnat que l'OL a du mal à faire le jeu, je serais pas surpris qu'il soit okay. beaucoup plus
laisse le ballon, hein.
Voilà, tenter de laisser la balle. Mais ça marche aussi pour City en fait, hein, parce que City c'est 3 points perdus à domicile. Alors évidemment, on est loin d'imaginer pour l'instant le scénario catastrophe pour eux. Mais ces 3 points perdus à domicile, il va falloir les récupérer quelque part. Et sur le match qu'on a vu entre le Shakhtar et Hoffenheim, certes, il y a des failles des deux côtés, mais il y a aussi deux équipes qui seront forcément, je pense, très bien préparées pour ce match. Et qui risquent aussi de poser pas mal de problèmes à City. Peut-être des problèmes différents que ceux posés par l'OL, mais des problèmes assez... Enfin, les deux équipes ont vraiment des atouts. Je pense au côté gauche du Shakhtar, je pense... au bloc compact d'Offenheim qui peuvent inquiéter à la fois Lyon mais aussi Manchester City.
Ouais, puis en gagnant Lyon, c'est assuré que City prendra le dernier match au sérieux contre Offenheim, parce que c'est aussi comme ça que Naples avait été éliminé la saison passée, parce que City avait laissé le Shakhtar gagner, je crois, sur son terrain, il me semble, en fin de phase de poule, ce qui avait éliminé Naples de l'histoire. Christophe, est-ce que tu as un truc à rajouter sur Shakhtar et sur Offenheim, ou on passe directement à l'autre match qui nous a intéressé cette semaine?
Non, juste dire que ça sera un test différent pour Lyon et pour Genesio, parce que City, tu sais toujours à peu près comment ça va, enfin quelle sera la philosophie de jeu. Il peut y avoir quelques adaptations à la marge, mais globalement, tu sais que ça va essayer de construire, d'avoir le ballon, etc. Shakhtar et Hoffenheim, c'est beaucoup plus imprévisible, à la fois dans le système de jeu, dans la manière dont ils s'animent, mais surtout dans le fait que le Shakhtar puisse venir avec une défense très haute, avec une défense très basse, enfin le fait que ça puisse contrer. Il y a vraiment d'un match à l'autre beaucoup de changements, et là pour le coup, tu seras beaucoup plus testé sur ta capacité à réagir à des problèmes. À des problèmes qui sont peut-être moins complexes, mais qui seront plus difficiles à deviner, alors que contre City, tu pouvais déjà estimer avant la rencontre quelles étaient les zones à dominer si tu voulais espérer gagner.
Très bien. On passe à l'autre gros match de la semaine pour les clubs français. Alors certes, Monaco a joué contre l'Atlético, mais c'est un match qui nous a moins passionnés et qui n'a pas donné de surprise, donc on n'en parlera pas forcément aujourd'hui. Oui, puis on vous reparlera de Monaco peut-être que lorsqu'ils joueront des adversaires moins forts dans leur poule, peut-être contre le Dortmund de Favre. Mais l'autre match qui nous a intéressé, c'est évidemment le choc entre Liverpool et le PSG. On l'avait cité parmi les matchs qui nous intéressaient le plus, Florent. Et il a été intéressant. Peut-être qu'il n'a pas été comme on aurait pu le penser. Dans mon découpage, il y a trois actes. Il y a les 20 premières minutes de Liverpool qui sont très bonnes et qui dominent le PSG. Il y a le mieux ensuite du PSG, peut-être entre la 20e et la 45e à peu près, où ça a été un peu mieux. Et puis il y a cette deuxième période où j'ai l'impression que le PSG change complètement de plan de jeu à la mi-temps et abandonne l'idée d'avoir le ballon. Alors je ne sais pas si c'est conscient ou si c'est forcé par le style de Liverpool. Quel bilan tu ferais de cette rencontre gagnée 3-2 par les Reds?
Ça dépend de quel côté on se place. Quand on regarde l'opposition, enfin les deux équipes avant le match et ce qu'elles ont montré en championnat et la dynamique sur laquelle elles sont en Ligue des Champions par rapport à la saison dernière, tu te dis que Liverpool, qui a une classe d'écart par rapport au PSG et qui s'impose, tu te dis c'est pas forcément une surprise. Après, tu rentres dans le détail, enfin. Et puis tu pousses ça et tu dis Liverpool avec 4 ans ou 3 ans de Klopp, je sais plus, et le PSG avec 3 mois de Tuchel, tu te dis l'écart qu'on a vu sur le terrain, il n'est pas forcément très surprenant. Après, évidemment, si tu remets dans la balance pour juger les sommes dépensées par le PSG sur les deux dernières saisons, c'est sûr que là le jugement va être un peu beaucoup plus sévère pour Paris. Mais moi personnellement, je suis sorti du match en fait avec vraiment les 20 premières minutes en tête, et c'est vrai que les 20 premières minutes, je crois que de tête, en termes de stats, tu as 7 tirs pour Liverpool, tu dois avoir 4 arrêts d'Areola, et puis des parades pas forcément faciles, il y a celle face à Van Dijk par exemple qui part en lucarne, tu as 7 corners pour Liverpool, 1-0 ou 1 pour Paris, je crois. Donc c'est vrai que ces 20 premières minutes étaient très compliquées. Mais après, moi, sur le plan de jeu du PSG, il y a des choses que j'ai bien aimées. C'est notamment leur capacité à se sortir du pressing des Reds. Chose très simple, Tuchel l'explique en conférence de presse après le match. Il voulait trouver les latéraux au moment de construire, parce que Liverpool est une équipe qui où les ailiers sont là pour t'empêcher de trouver les latéraux, donc ils sont sur les lignes de passe, et l'idée c'est que tu vas essayer de trouver des relais dans l'axe, et ces relais là sont pressés par Henderson, par Milner, quel était le troisième
Wijnaldum.
Voilà, et moi j'ai trouvé que Paris, sur ses séquences de possession, a plutôt bien fait ça pour éviter cette pression dans l'axe. Kimpembe, ses prises de balles orientées vers l'intérieur, justement pour s'ouvrir des angles de passe directs vers Bernat. Il aurait aussi pu d'ailleurs tenter des renversements de jeu sur Meunier, ça aurait créé des 2-1 à l'opposé. Bref, utiliser ses latéraux, je trouve que Paris l'a plutôt bien fait. Il y a eu aussi une relation Di Maria-Neymar qui a plutôt bien fonctionné pour toucher Neymar. Et le problème du plan de jeu du PSG, c'est que pour faire reculer Liverpool une première fois, ça fonctionnait, c'était assez bien récité sur leur phase de possession, j'ai trouvé. Par contre, le problème, c'était que la deuxième étape du plan, c'était trouver d'abord les latéraux pour calmer le jeu et le rythme, avoir la possession et être dans le camp adverse. Et la deuxième partie, c'était trouver Mbappé ou Neymar pour compter sur leur vitesse pour faire des différences.
Souvent Neymar, d'ailleurs, plus bas pour ensuite renverser ou jouer dans le dos.
Voilà, beaucoup plus Neymar que Mbappé. Et là, le problème, c'est que ça a beaucoup moins fonctionné. Dans les premières minutes, Neymar a fait deux fois des différences, je pense, face à Miller et Anderson. Malheureusement, les passes à la fin n'ont pas abouti, ou Liverpool a bien couvert dans sa surface. Mais ensuite, c'est vrai que Liverpool a pris l'ascendant et a très peu subi de dribbles et d'accélération de la part de ces deux-là. Je crois que Neymar finit à 2 sur 9 en termes de dribbles réussis. Je crois qu'Mbappé ne tente même pas grand-chose de tout le match. Donc c'est vrai que sur la phase d'attaque placée, ils avaient le bon plan pour se sortir du pressing, mais après ça tournait beaucoup trop autour de la réussite de ces deux individualités pour pouvoir vraiment gêner une équipe qui une fois qu'elle défend bas, défend en bloc et est toujours quasiment en surnombre. Et là on en revient au problème habituel du PSG, je sortirai de ce tunnel là-dessus, c'est que cette équipe est coupée en deux quand elle défend et quand elle attaque, et on pourra développer sur ce fait-là quand elle défend, mais c'est vrai que quand elle attaque, que ce soit en phase d'attaque placée ou d'attaque rapide, on se retrouve très vite avec les trois de devant et un bloc derrière qui n'est pas capable de suivre, et là c'est physique, ou soit qui n'a pas l'habitude, parce que habituellement en championnat, peut-être que ces trois-là suffisent à faire la différence, du coup les autres ne font pas les efforts. Mais quand en face, l'équipe qui se replie se retrouve très vite à 4, 5, 6, 7, voire 8 joueurs, là, les 3 de devant, surtout que les défenseurs, là, c'est pas des peintres, les 3 de devant se retrouvent en plus grande difficulté pour faire la différence.
Alors, il y a une question, Christophe, de Loki sur Twitter qui nous demande, peut-on considérer que le plan de jeu de Tuchel était d'avoir la possession ? J'ai l'impression que oui, en première période, et c'est ce qu'a mentionné Florent sur les phases de construction et de relance qui étaient bonnes et qui ont permis d'installer parfois une forte possession, notamment en deuxième partie de première période. Par contre, j'ai l'impression qu'en deuxième, ou surtout à la mi-temps, quand ils se sont rendus compte que le pressing de Liverpool, par moment, et l'intensité de Liverpool et le bloc haut allaient les empêcher de ressortir souvent, et surtout d'avoir cette possession de manière permanente et systématique, ils ont décidé en deuxième de reculer et de jouer quasiment que des transitions. Alors ça a donné des occasions, ça a aussi donné énormément de corners pour Liverpool. Et là-dessus, t'as vu un PSG, pas forcément qui était désorganisé, mais t'as l'impression qu'ils font, il leur manque, je sais pas, un cran ou un domaine ou un palier pour vraiment comprendre que le niveau Ligue des Champions contre des gros, il te faut plus que ça pour t'assurer une victoire et plus d'occasions que l'adversaire. Parce que là, ils peuvent gagner le match aussi, mais c'est sans aucune maîtrise de pas mal de phases de jeu.
Ah clairement, le qui tout double, c'est sur le dribble d'Mbappé. Mbappé rate son dribble à la dernière seconde, il perd la balle. Firmino marque. Je suis persuadé que si ça passe, t'as une énorme occasion de l'autre côté. Mais en fait, je suis très très mitigé sur ce match de Paris. Je trouve que d'un côté, la prestation est ultra décevante sur le contenu, pour plein de raisons. La première étant que pour moi, si tu fais venir Tuchel, tu fais pas forcément venir pour jouer de la sorte. C'est-à-dire que déjà Emery, on avait l'impression que c'était un peu contre nature quand il laissait deux joueurs, Neymar et Mbappé, très peu défendre, et qu'en gros ça se reposait beaucoup sur leur capacité à faire des différences devant, mais c'était un peu coupé en deux. Déjà ça, c'était pas forcément du Emery. Tuchel est une version encore bien plus grande du côté où on a la balle, on essaie de construire quelque chose, on fait défendre tout le monde. Et là, au contraire, tu jouais contre nature. Après, ça peut s'expliquer par le moment. On n'est qu'en septembre. Tourelle vient d'arriver. Ces matchs-là n'ont pas forcément une importance capitale à l'échelle d'une saison. Faut se souvenir qu'il y a un an, à l'époque, c'était PSG Bayern et qu'au final, tu regardes ce qui s'est passé au printemps. Bah, le PSG Bayern, même 2 mois après sur le match retour, tu te rendais compte finalement que le match aller n'avait pas finalement une grande importance.
À la différence qu'il y avait un entraîneur qui avait été viré entre les deux matchs.
Oui, mais je dirais à l'échelle du PSG, d'avoir gagné l'aller ne garantissait rien pour la suite de ta campagne, quoi.
Oui.
Et en fait, d'un côté, je suis déçu donc par le contenu parce que moi, j'attends en tant que suiveur, j'attends des choses de Tourelle et j'attends des choses de ce PSG-là. Maintenant, si tu prends uniquement ce match face à Liverpool, je trouve que c'était presque le meilleur moyen d'embêter Liverpool, à savoir de quand tu as la balle, que ta possession soit assez tranquille, que tu fasses tourner et pas forcément dans le camp adverse, que tu fasses des passes assez latérales qui n'ont pas grande vocation à déséquilibrer l'adversaire au milieu de terrain, mais du coup à casser un peu le rythme du match parce que tu seras toujours battu par l'intensité qui est mise par certains joueurs de Liverpool, notamment Milner plus les trois de devant qui vont venir te chercher, mais tu peux au moins calmer un peu leur intensité collective et le fait que dès qu'ils se procurent une occasion, ensuite tu puisses avoir 5 ou 10 minutes très très compliquées. D'ailleurs, il y a encore eu le côté Liverpool ouvre le score et derrière, ça s'emballe, c'est la folie, il faut faire attention parce que tu peux en prendre un ou deux juste derrière.
Ils en ont pris un deuxième d'ailleurs.
Ouais, mais disons, ça, là, c'est 6 minutes, il peut arriver même dans la minute suivante, je crois que tu as un corner derrière. Mais c'est vrai que oui, 6 minutes, ça reste quand même un enchaînement assez, assez court. Mais ça pour dire que, à la fois, je trouve ça assez nul, entre guillemets, le fait de, notamment la deuxième mi-temps où t'es coupé en deux. Mais paradoxalement, quand t'as Neymar et Mbappé, ça peut être la meilleure façon de gagner. Tu fais 2-2, tu passes pas loin du 3-2. Et tu fais 2-2. Tu reviens à 2-2. Et Neymar, tu rates quand même énormément d'occasions, notamment en transition. Et tu dis qu'à Neymar, dans un bon jour, parce que je pense que Liverpool le défend bien, mais que Neymar est aussi pas dans un bon jour, tu peux gagner le match. Après, le problème, c'est que tu peux pas construire là-dessus. Tu as quelques circuits, notamment le circuit en première période, Di Maria, Neymar, qui sera reproductible, mais cette façon de faire là, elle fonctionne parce que c'est Liverpool, mais tu gagneras pas la Ligue des Champions en jouant comme ça. Donc, ouais. Tu construis pas un fond de jeu, mais ça aurait pu te permettre de gagner ce match-là, ou au moins de faire match nul. Donc, c'est assez bizarre, mais la deuxième période me laisse quand même un goût très amer en bouche parce que tu sentais une équipe qui jouait presque la carotte et qui abandonnait toute intensité au milieu de terrain et qui ne faisait pas grand-chose, quoi.
Bah, ce qui est étrange, parce que la deuxième partie de la deuxième période, de la première période, pardon, Florence, c'est le PSG qui arrive à trouver des solutions pour ressortir proprement et sans danger avec un Marquinhos qui vient décrocher entre les centraux. Donc les trois de devant Liverpool ne savent plus vraiment comment orienter, surtout que sans Firmino, tu n'as pas ce repère et ce mec qui va presser avec intensité et intelligence. Sturridge ne peut pas le faire aussi bien. T'as le PSG qui arrive à sortir, qui commence à trouver des solutions, qui arrive à faire passer le jeu d'un côté à l'autre. Et puis en deuxième période, tout ce côté-là disparaît. Je crois que Liverpool a une possession immense en deuxième période. Enfin, ça se renverse de la première à la deuxième. Et là, tu te dis, le bilan que tu fais est à peu près le même que tu faisais d'Emery dans les mauvais moments, où tu te dis, Tourelle, lui non plus, soit il n'arrive pas, soit il ne veut pas faire défendre ses deux ailiers, Mbappé et Neymar. Et du coup, ça le limite dans ce qu'il peut proposer en termes d'expression collective. Et à ce moment-là, à quoi ça sert d'enchaîner des coachs si tu ne peux pas changer certains trucs, si certaines choses sont inhérentes et impossibles à modifier. Et c'est là-dessus qu'on attendait Tourelle, parce que c'est quelqu'un qui négocie pas en général l'effort et qui veut du pressing à la perte, même s'il l'exécute pas toujours bien. Et il veut un pressing haut, il veut aller chercher haut. Et ça n'a pas été le cas pendant une bonne partie du match, notamment à cause de l'attitude et du comportement des deux de devant, et se repose la question du pouvoir du coach par rapport aux deux stars de l'équipe.
Alors, il y a un petit détail, c'est que la possession, c'est pas du tout renversé d'une mi-temps à l'autre.
Je sais qu'à la mi-temps, le PSG est devant et qu'à la fin du match, Liverpool est devant. Donc,
ouais, mais légèrement devant. C'est
d'accord. Il y a eu des longues séquences de possession.
C'est surtout ça. Mais pour ça, c'est plus un détail qu'autre chose. Par rapport à ça, change pas trop la lecture du match et ce qu'a voulu faire Paris et ce qu'ont voulu faire Liverpool. Après Paris, la deuxième mi-temps aussi, il y a beaucoup plus de déchets et de ballons rendus bêtement, etc., qu'en première. Mais par rapport à ce que tu disais sur Tuchel et le fait qu'on sente pas forcément sa patte, je pense aussi qu'il est dans une approche on va dire, il doit encore se faire accepter, parce que c'est un grand mot, mais être adoubé par son groupe et avoir l'approbation de son groupe, je pense, dans le sens où il est arrivé Il est arrivé en grande pompe, c'était la fête, après le trophée des champions, il venait l'arroser en conférence de presse, etc. Bref, c'était leur pote, quoi. Et je pense que il est encore dans cette situation-là, où il y a une petite aura qui l'entoure, à la fois avec son groupe, où il semble très apprécié par les joueurs, mais aussi au-delà dans la presse, etc., où quand même ses premiers mois sont beaucoup plus tranquilles que les premiers mois d'Emery quand il est arrivé après avoir succédé à Laurent Blanc. Donc je pense qu'il y a encore ce facteur-là qui fait qu'il tente des choses, etc., mais pour l'instant, je pense que le Tuchel, qu'on connaissait quand même assez, assez rigide et capable d'être très rigoureux et très, voire très sévère avec certaines de ses stars. Je crois que c'est avec Hummels où ça se passait pas très bien du côté de Dortmund à la fin. Il me semble que c'était ça, sa cible préférée.
Après, au-delà de ça, c'est plus facile d'être rigide avec les attaquants de Dortmund qu'avec Neymar et Mbappé, tu vois. Enfin,
oui.
C'est la question et se repose de manière assez éternelle au PSG.
Oui, ben voilà, mais j'allais y venir. Est-ce qu'il va rester dans cette optique-là parce que Neymar et Mbappé auront plus de pouvoir entre guillemets que lui, et du coup bah, il devra faire son équipe en fonction de ça, et du coup on risque d'avoir du mal de voir le football selon Tuchel au PSG, ou bien il va commencer à prendre des décisions petit à petit et s'énerver quand les problèmes viendront. Le problème entre guillemets de ce match, C'est que Paris perd que 3-2 et que Paris, si l'occasion de Draxler, s'il n'y a pas, je crois que c'est Van Dijk qui le contre au dernier moment, ça fait sans doute 2-3, parce que dans cette position-là, je pense pas qu'il rate le cadre, et Paris sort avec une victoire quasi inespérée, mais avec une victoire quand même. Donc il y a aussi ce facteur-là, c'est peut-être ce genre de défaite qui peut permettre à Tuchel de mettre en place son projet et d'imposer ses idées. Le truc, c'est qu'on disait pareil d'Emery, il a finalement pas réussi. Mais c'est au final, il se pose, c'est un entraîneur sur le plan des idées qui est à l'opposé de son prédécesseur, mais il se pose exactement le même problème, c'est par rapport à la gestion et au management des joueurs, quoi. Et de toute façon, il va falloir attendre les matchs suivants. Et le problème, c'est qu'il va falloir attendre les matchs compétitifs où il y a vraiment un adversaire en face pour voir ces différences-là, et le problème, c'est que la prochaine fois, c'est peut-être que le match retour, même s'il y aura certes le match face au Napoli entre-temps. Ouais. Voilà.
À l'échelle individuelle, Christophe, alors collectivement, Liverpool n'a pas mis beaucoup d'intensité par rapport au standard de Klopp. Par contre, il y a eu des joueurs, des performances qui sont sortis du lot, notamment Milner et Henderson au milieu de terrain. Wijnaldum rentre un peu là-dedans aussi. Où t'as senti qu'en termes d'attitude et d'intensité individuelle, Rabiot et Marquinhos, même Di Maria par certaines séquences, ont été dépassés. Et ça, c'est un problème qui n'est pas nouveau au PSG. C'est plus un problème, alors ça dépend si c'est mental ou athlétique, mais tu sens que dans certains moments du match, et même Neymar face à Milner, t'es pas prêt pour l'intensité que vont mettre dans les duels tes adversaires, peut-être par rapport à ce qui se fait en Ligue 1, parce que Milner est capable aussi de mettre dans l'intensité tout en intervenant proprement et en faisant pas faute. Et là-dessus, je crois que Florent, tu m'avais donné la stat avant qu'on enregistre. Milner réussit 5 de ses 6 tacles. Henderson est à 3 sur 3. Et les déséquilibres que tu réussis à créer, tu les perds peut-être sur des faiblesses individuelles dans le 1 contre 1. Et là-dessus, on reparle de duel, même si on n'aime pas en parler. Mais là, c'est vraiment un côté état d'esprit que le PSG n'a pas et n'a pas depuis longtemps.
Bah, déjà, il faut dire que t'es pas obligé d'être dominateur dans l'impact et dans l'intensité physique pour gagner des matchs. C'est-à-dire que tu peux contourner ça en étant simplement plus technique ou autre. Et puis, si tu fais tourner la balle, l'adversaire va s'épuiser à courir partout. Mais au final, il faut quand même être capable de faire des passes hautes pour gagner des matchs. Le problème, c'est que là, l'écart qu'il y a entre Liverpool et Paris dans l'intensité n'est pas compensé par l'espèce de force et de domination technique et d'appréhension du poste que pourraient avoir les Parisiens, notamment dans l'entrejeu. Dans la mesure où Marquinhos, qui n'a pas les réflexes de milieu de terrain, n'a pas mis une intensité particulière, et c'est logique parce que c'est pas forcément ce qu'on lui demande de multiplier les courses et d'aller tout le temps au duel en tant que défenseur central. Il est plus dans la couverture, etc. Di Maria n'a jamais été le joueur le plus intense du monde. Il faut quand même se rappeler qu'au départ, c'était un ailier qui se contentait de déborder, qui ensuite a été replacé, mais qu'il a un et deuxièmement plutôt en fin de carrière. Et même quand il jouait dans l'entrejeu au Real, bah, il était plus là pour le contrôle et faire du pressing à la perte, mais il n'avait pas forcément à mettre de l'intensité sur des séquences très prolongées. Et Rabiot, bah, ça restera Rabiot. C'est un joueur élégant, mais qui est plus Mathieu Bodmer que James Milner dans son attitude, quoi. Et c'est vrai que à partir du moment où t'es déficitaire dans cette espèce d'impact et dans la volonté d'aller au combat, il faut que tu sois vraiment meilleur footballeur. Et pour le coup, Henderson, bah, puisque tu lui demandes pas de, enfin, tu le mets pas forcément sous pression, il peut se contenter de mettre la balle, donner la balle devant et de prendre le temps de se retourner. Chose qu'il fait pas quand il est pressé. Bah, du coup, Henderson va donner la balle à Milner, à Robertson sur le côté ou à Alexander Arnold de l'autre. Et du coup, il aura le temps de jouer, enfin, faire des passes vers l'avant qui sont faisables par à peu près tous les footballeurs de ce niveau-là. Et Wijnaldum Milner, Milner, qui est, je pense, meilleur passeur l'année dernière, qui fait des stats assez folles en Ligue des Champions, et Wijnaldum, qui est formé comme milieu offensif, bah, ce sont des très bons joueurs qui ont su ajouter à une panoplie plutôt bonne techniquement cette intensité-là. Alors que Paris, ce sont des plutôt bons joueurs techniques, mais qui n'ont pas réussi à compenser sur ça. Donc c'est vrai que tu as eu... En fait, ce qui m'embête, c'est que, tu vois, on part de l'idée que Neymar et Mbappé, c'est quasiment impossible de leur faire apprendre l'effort défensif. Et on se dit, oui, mais Salah, Mané, ils ont su le faire. Mais au final, t'as pas une différence ultra importante individuellement. T'as une différence, mais entre Mané et Salah, c'est pas comme si t'avais appris à des chèvres leur dire, bon, bah, vous savez pas jouer au foot, donc vous allez courir. Salah, c'est quand même individuellement un très très bon joueur, et il a pris sur lui de faire ces courses-là, même si parfois ça le dessert. Et Neymar actuellement, je suis pas sûr qu'il soit forcément 10 fois meilleur que Salah. Et lui, tu peux pas lui demander de faire ça. Donc si tu le fais pas défendre, ce qui est tout à fait acceptable, enfin si c'est justifié par sa production offensive, il y a pas de souci. La Juve, Bernardeschi défend pas tout le temps, Douglas Costa défend pas tout le temps, Ronaldo sur le début de saison défend pas trop.
Il y a des exemples de vainqueurs de Ligue des Champions où les attaquants défendaient pas. Hein. Le Real d'Ancelotti, le Barça d'Enrique. Mais par contre, les mecs derrière Ronaldo et Messi, ça te mettait un doublé quand fallait mettre un doublé.
Non seulement ça, mais en plus c'était compensé par un milieu de terrain où même les artistes, même les Modric, même Modric Kroos, ça courait, et puis t'avais Casemiro en 6 pour mettre les taquets quand il fallait. Là, non seulement t'as pas de pur numéro 6, mais tes deux numéro 8 ne courent pas forcément. Donc c'est même pas une question de latéraux offensifs ou pas. Il y en a qui me disaient oui, latéraux offensifs, mais là, la Juve cette année avec Cancelo, Alexandro, t'as aussi des latéraux très offensifs. Et c'est pas pour autant que les joueurs de couloir courent beaucoup. Mais un, tu passes la plupart de ton match dans le camp adverse. Donc du coup, si t'as sur ton pressing à la perte, bah t'es rarement en position de défendre. Et deuxièmement, t'as l'apport de l'autre côté du terrain qui fait qu'à partir du moment où un joueur te met deux buts, ça compense largement ses oublis défensifs, parce qu'un oubli défensif, 9 sur 10 ne seront pas payés par un but encaissé, quoi.
C'est bien parce que t'as rempli ton édito alors que je voulais te lancer dessus. Tu voulais mettre en place ce petit truc, mais c'est vrai que Florent, on a vu cet exemple-là. Par contre, il y a une question que je me pose, moi, c'est sur le fait que le PSG puisse pas couvrir la largeur parce que Neymar et Mbappé, dès qu'un ballon passe dans leur dos, ne reviennent pas. On a vu, il y a eu des stats énormes de corners et de centres du côté de Liverpool, et ils ont eu la chance plus d'avoir deux bons centreurs avec Robertson et Arnold, plus un gars comme Milner qui est capable d'envoyer des bons centres. Est-ce que ce que propose le PSG comme ligne défensive est assez fort pour gagner la Ligue des Champions, en tout cas aller loin en Ligue des Champions avec cette ligne défensive-là? Autant Silva et Kimpembe, je pense qu'ils peuvent défendre la surface correctement, mais sur des Meunier et Bernat, quand ça va venir au deuxième poteau, tu vois, et encore là, ils prennent un but de Sturridge sur... je crois que c'est un enchaînement centre en plus, non? C'est Arnold qui centre et Robertson qui recentre.
C'est ça. Il y a centre d'Arnold, il y a un 3 contre 2 dans la surface, ça arrive sur Robertson, et de l'autre côté, du coup, Meunier sort de la surface pour aller sur le joueur Robertson. Qui récupère, c'est pas Robertson, c'est un autre. D'accord. Qui récupère la balle et qui remet à Robertson. Mais du coup, Meunier est plus là et Sturridge se retrouve entre Kimpembe et Thiago Silva et puis met la tête démarquée.
Parce que c'était un peu ce qui s'était passé contre le Barça au retour, c'est-à-dire est-ce que t'es assez fort pour contrôler ta surface pendant 90 minutes? Silva, je crois que c'était Kurzawa qui était au deuxième poteau, qui avait fait un match assez catastrophique ce soir-là.
C'est assez de Kurzawa, oui.
Et tu se reposes encore la question, si tu couvres pas la largeur, est-ce que t'as la défense suffisante et les joueurs suffisants pour maîtriser ça? Et je crois que j'ai l'impression que seul le Real Madrid a réussi à le faire depuis quelques années.
Ouais, c'est vrai. Moi, quand j'ai vu le match de Liverpool, en fait, et que je voyais leur possession qui était, qui était très en U, hein, on va pas se le cacher. Ouais. C'était un vrai U.
Bah, dès qu'il jouait à l'intérieur, il perdait le ballon. Donc.
Voilà, on évitait de jouer à l'intérieur pour éviter de se prendre des transitions. On évitait aussi de jouer à l'intérieur parce que je pense que sans Firmino, ils n'avaient pas le relais habituel dans le cœur du jeu et le relais fiable.
Il n'y avait pas Naby Keita non plus.
Avec ses remises et pas de Keita en plus pour casser les lignes. Donc je pense que oui, ils se sont contentés d'utiliser la largeur en se disant avec les centres d'Arnold et de Robertson, ça va finir par passer. Et en fait, moi, la réflexion que je me faisais surtout, c'est que quand tu vois cette équipe et cette manière de défendre du PSG, et ce qu'a fait Liverpool, c'est que moi, je suis un adversaire à venir du PSG avec un peu de qualité pour savoir sortir de la pression, garder la balle, etc. Et avoir du coup des séquences de possession. J'essaie de copier-coller ce qu'a fait Liverpool offensivement, c'est-à-dire que je fais tourner sur la largeur, je contourne la première ligne et puisque Neymar et Mbappé reviennent pas après, et puis j'envoie des centres. Et peut-être qu'avec mon attaquant d'1m90 et peut-être un deuxième mec qui arrive lancé dans la surface, peut-être que je réussirai à mettre un ou deux buts dans le match à cette défense. Et sur des séquences où j'ai la balle, quoi, pas forcément sur des séquences où je prends le PSG en contre, chose qu'on fait Nîmes, qu'on fait Guingamp et qu'on fait d'autres équipes. Donc c'est surtout ça en fait la question que je me pose, c'est je me demande si Liverpool a pas posé un plan assez simple à exécuter pour mettre en difficulté ce PSG défensivement. Après Silva, Kimpembe, ça reste des très bons joueurs dans la surface, comme tu le disais.
Ont été bons individuellement d'ailleurs.
Individuellement, ils ont été très bons, même avec la balle. J'en parlais tout à l'heure sur leur prise de balle vers l'intérieur pour se protéger des pressings de Salah ou Mané et ensuite l'orientation vers les latéraux. Mais c'est vrai que t'as un peu une situation, une démonstration de la part de Liverpool sur ce point-là, qui suffit d'être, même en étant très basique dans la manière de jouer, tu peux mettre 3 buts à ce PSG. Et d'ailleurs, Sturridge en plus a une autre occasion de la tête en deuxième mi-temps. Il y a le but refusé, logiquement refusé à Salah, puisque Sturridge va mettre son pied sur les parties d'Areola.
C'est ça, ouais.
Ça part aussi d'un... Alors, c'est pas un centre, mais c'est une sorte de centre-tir. Je crois que c'est Wijnaldum à l'entrée de la surface. Et c'est dévié, et du coup, ça finit sur les deux. Donc, c'est vrai que cette défense à 7 du PSG, qui est parfois une défense à 6, quand Rabiot ou Di Maria oublient de se replier parce qu'ils viennent de faire une longue course vers l'avant. Donc, du coup, tu sais que c'est compliqué quand même de faire des allers-retours sur le terrain. Donc, ils arrivent très tard après. C'est vrai que elle est pour l'instant assez prenable, et je trouve que Tuchel, dans justement cette défense à 7 et ce contrôle de la surface de réparation, il y a encore des progrès à faire ou des choses à retrouver qu'avait quand même assez bien réussi à faire Emery l'année dernière pour limiter les dégâts. Mais comme tu le disais tout à l'heure, les joueurs n'étaient pas les mêmes, que ce soit en défense ou au milieu, où tu avais par exemple un Mota qui, pour tout ce qui est compensation et placement, faisait quand même très peu d'erreurs.
Il défend super bien les centres en retrait, Mota par exemple, parce que de numéro 6, où ils sont attirés par le ballon et ça fonce sur la ligne de but, alors que parfois défendre le centre en retrait, c'est beaucoup plus intéressant. On a beaucoup parlé du PSG et de son plan, Christophe. Côté Liverpool, il y a eu des bonnes individualités. Alors, on peut parler d'Arnold, on peut parler de Robertson. Tu as aussi un gars comme Van Dijk qui a bien défendu sur Mbappé quand il y avait des courses. On avait eu le débat la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, sur quelle équipe est favorite pour la Ligue des Champions. Et je crois que Florent et toi, vous aviez mis Liverpool assez haut par rapport à moi. Peut-être parce que par superstition, j'avais pas envie de les placer haut. Est-ce que toi, Christophe, t'es plutôt du coup rassuré par Liverpool ou pas après cette performance et cette victoire 3-2 un peu à l'arraché, mais sans vraiment souffrir?
Dans la mesure où Naby Keita joue pas le match, que Firmino est remplaçant de Sturridge que j'aime bien, mais dont les qualités sont assez différentes, et a priori celle de Firmino bonifie quand même nettement Liverpool. Je suis quand même, enfin, c'est même pas question d'être rassuré ou pas. Je pense qu'il y a quand même pas non plus énormément de choses à tirer de ce match-là pour la victoire finale. Simplement, Liverpool confirme ce qu'on a déjà vu en championnat, à savoir qu'il y a possibilité de plus en plus, et donc même avec un effectif qui, si je dis pas de bêtises, est exactement le même que l'an dernier. Enfin, t'as pas de recrues, t'as juste des jeunes qui, hormis le gardien, mais des jeunes qui prennent de l'importance.
Ouais, sur le rang titulaire, ouais, t'as Naby qui s'est intégré, et puis après t'as Fabinho, Shaqiri qui sont encore en cours d'intégration.
C'est ça, je suis pas persuadé que Shaqiri soit destiné du tout à devenir titulaire. Fabinho, ça peut se discuter sur certains matchs, mais a priori, je pense que ça sera plus Minerva, Wijnaldum, Keita. Donc ouais, en tout cas, je trouve vraiment que Liverpool, mais c'est la confirmation de ce qu'on voit depuis le début de saison, sort de la caricature du Klopp ne sait jouer que sur du gegenpressing, ouais. Et face aux équipes regroupées, c'est plus difficile, etc. Là, dans Liverpool, il commence à savoir tout faire.
Ce qui a été vrai longtemps concernant Klopp, même à Dortmund la dernière saison où il était complètement... tout le monde avait compris comment il jouait.
C'est ça. Alors que là, tu sens que c'est pas le grand Barça, les rouages sont pas incroyables. N'empêche que c'est suffisamment solide pour te procurer des occasions de plusieurs manières, que ça soit sur des centres, sur des percussions à l'intérieur, sur les contre-attaques. Enfin, t'as quand même pas mal de manières de marquer, et même si c'est pas toujours incroyable, mais comme certains matchs en championnat où tu gagnes un peu à l'arrache, t'arrives quand même à te procurer suffisamment d'occasions pour te retrouver, je dis n'importe quoi, mais sur des différentiels, 15 occasions nettes à 5. Et donc, du coup, puisque t'as des bons attaquants et un bon gardien, bah, logiquement, quand il y a un tel différentiel, tu te retrouves à gagner les matchs.
Messieurs, c'est le moment de passer au pari avec notre partenaire PMU.fr. On n'oublie pas qui a encore gagné de l'argent grâce à nous, même si pour une deuxième semaine consécutive, j'ai passé un pari. Mmh. C'était sur la première période de Liverpool, je crois, qui devait être devant au score à la pause.
C'est ça.
C'était assez évident, et voilà. Bon, l'Inter m'a un peu gâché mon doublé, parce que si Tottenham ne s'était pas endormi lors des 10 dernières minutes, j'aurais pu gagner aussi le deuxième pari, qui était Tottenham vainqueur à l'Inter. Bref, on passe au pari de cette semaine, avec deux matchs pour Florent qui concernent ce dimanche. Le premier, bon, je vais te lancer sur West Ham-Chelsea.
Ouais.
Alors West Ham, contrairement à ce que je pensais, s'est réveillé et a battu Everton la dernière fois. Là, qu'est-ce que tu nous proposes sur le match des Hammers contre Chelsea, le derby londonien?
Bah, West Ham Chelsea, on a Chelsea qui continue de prendre des points, qui fait toujours un sans faute tout en haut de la première ligue. West Ham qui, comme tu l'as dit, s'est réveillé face à Everton, 3-1 je crois la victoire, face à Everton,
avec un bon Arnautovic.
Ouais, comme souvent hein, d'ailleurs, joueur assez oublié à West Ham, oui. Un peu comme Felipe Anderson, hein, oublié, voilà. C'est les deux talents oubliés des Hammers. Mais bon, je pense que face à Chelsea, ça ne va pas suffire, même si Chelsea joue en Ligue Europa cette semaine. Enfin, a joué, selon la période où vous écoutez le podcast. Voilà.
Qui a gagné 3-0, bien sûr.
Hein. Évidemment, face au PAOK Salonique, c'est ça en déplacement.
Alors non, ils ont perdu, parce que c'est une équipe grecque.
Ouais, bref. Passons et revenons donc à ce West Ham-Chelsea. Et justement, sur le match de Ligue Europa, Sarri a quand même annoncé la couleur par rapport à sa vision de la compétition, puisqu'il a laissé Hazard à la maison pour ce match. David Luiz aussi. Donc du coup, pour ce pari, c'est pas très original, mais je pense que Hazard va marquer, que Chelsea va gagner dimanche. C'est coté à 2,70, donc ça me paraît plutôt intéressant de combiner les deux, sachant que sinon... Hazard qui marque et Chelsea qui gagne, on est évidemment sur des cotes inférieures à 2. Donc voilà, on combine les deux. En plus, il tire les pénaltys, donc ça donne une chance supplémentaire peut-être de le voir marquer un but par rapport à d'autres joueurs. Et 2,70, ça me paraît plutôt bien payé vu l'adversaire, vu la forme de Chelsea et vu la forme de Hazard aussi qui redémarre la saison quand même assez fort.
Chelsea qui, comme Liverpool jusqu'ici, fait un sans faute, 15 points en 5 matchs, même si Chelsea a eu beaucoup de bonheur sur certains matchs et ne se crée pas autant de grosses occasions que Liverpool et convertit des occasions un peu plus minimes. Avec un Giroud qui, par contre, rentre dans le 11 et qui risque de piquer la place de Morata assez rapidement s'il continue sur ce rythme.
Ouais, bon joueur de remise, donc pour le football de Sarri, ça peut être intéressant. Ouais.
Le joueur d'une touche est indispensable à Sarri. On passe à la Ligue 1, il y a un match entre Guingamp et Bordeaux. Guingamp qui fait la série inverse de Chelsea, puisqu'ils ont perdu tous leurs matchs, si je ne m'abuse. Et Bordeaux, c'est difficile, impossible de les juger, donc je vais laisser en parler l'homme qui les connaît le mieux, Laurent. Ouais, qu'est-ce que tu nous proposes sur ce match?
Qui les connaît le mieux, qui les subit le plus. Guingamp-Bordeaux. Guingamp a une défense qui n'est pas très fonctionnelle sur ce début de saison. On l'a vu face à Marseille où elle a explosé en deuxième mi-temps. Moi, j'ai souvenir surtout d'un match face à Lille où ils avaient été assez ridicules et avaient été très facilement exposés par les Lillois. Qui avait fait un très bon match d'ailleurs, qui s'était imposé 3-1, il me semble, Christophe, à la fin.
C'est possible.
Le final.
Rappelons que ce garçon couvre le LOSC.
Voilà, il couvre le LOSC, évidemment. Il faut le rappeler.
Je vous écoutais d'une oreille, en fait.
D'accord.
Ah bah, c'est encore pire. Il y a une qui participe. Bon, bref. C'est très Christophe Kufli comme action.
Ouais. Et du coup, de l'autre côté, Bordeaux qui va essayer, je pense, de s'améliorer défensivement. De toute façon, il vaudrait mieux après avoir pris 3 buts à domicile contre Nîmes. Mais où il y avait quand même beaucoup de failles. Alors, on sent qu'il y a enfin voilà, c'est une équipe, vu les qualités présentes, peut vite se redresser autour d'un système défensif assez compact, hein, 4-4-1-1, voire 4-4-2, et puis on sort très vite en contre avec Kalou et Kamano sur les ailes. Voilà.
Kalou est 19e à l'heure actuelle, hein. Ouais, c'est le dernier contre l'avant-dernier.
C'est le dernier contre l'avant-dernier, mais alors on pourrait se dire les deux équipes vont donner la priorité, on va dire, à la défense pour éviter de perdre ce match qui serait quand même assez une catastrophe pour les deux aussitôt dans la saison, mais je pense que malheureusement pour elles les défenses sont pas assez compétentes pour l'instant pour tout verrouiller. Alors je peux me tromper et dans ce cas-là il faudra prendre le pari inverse, mais je pense qu'il y aura plus de 2,5 buts dans ce match. Alors le score par contre je vous laisse choisir. Donc plus de 2,5 buts dans ce match, c'est coté à 2 et ça me paraît plutôt intéressant, d'autant que d'un côté, Guingamp a quand même 2-3 individualités assez fortes sur les côtés, et Bordeaux a 2-3 latéraux assez faibles dans les 1 contre 1. Je pense notamment à Palencia qui risque de souffrir face à Marcus Thuram si c'est lui qui est titulaire sur le côté droit. Alors ensuite, on a une défense centrale qui, avec des joueurs qui se blessent, qui reviennent, des joueurs suspendus, etc. régulièrement. Bref, une défense centrale qui bouge beaucoup. Et un Koundé qui n'est pas très bien en ce moment parce qu'il vit... Enfin, il a du mal à se relever du limogeage de Poyet. Donc voilà, une défense bordelaise qui se cherche, un gardien qui est toujours pas très rassurant, et en face une défense guingampaise qui s'est pas trouvée non plus. Et donc au final, plus de 2,5 buts côté à 2, et si vous êtes encore plus joueur, il y a le plus de 3,5 buts qui est à 3,70. Sachez que sur Bordeaux-Nîmes, j'ai passé le plus de 5,5 buts. Donc j'étais assez fier de celle-là, c'était coté à 5,6 je crois. Donc c'était une belle journée malgré le match nul des Girondins. Mais voilà, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là pour que ce pari passe aussi.
Et pas de cote sur la bagarre entre Jimmy Briand et ses anciens coéquipiers.
Non.
C'est dommage parce que je pense que ça peut être un retour assez tendu.
On peut se poser la question de la cote de son absence pour blessure, entre guillemets. voilà, ça pourquoi pas. Mais ça, on verra du coup samedi.
Il aura une petite douleur en Ligue Europa qui lui privera de ce déplacement.
Un petit coup reçu sur c'est le ça. Pied ou quelque chose comme ça, ouais.
On passe à Christophe qui du coup va participer de nouveau à Vue du Banc. Je te rappelle que tu fais partie de l'équipe, Christophe, merci de revenir, est-ce que tu es là?
Oui.
Ah, voilà, donc tu vas nous parler de tes paris. Vu que Lyon a réalisé un bon match et gagné sur le terrain du champion d'Angleterre, tu te dis que ça ne peut pas durer.
C'est ça, en fait je m'appuie sur l'histoire, puisque si je m'appuie sur ma vision et ma science du jeu, ça ne va pas marcher. Donc je m'appuie sur l'histoire et sur la victoire de Lyon face à Paris l'an dernier, le 21 janvier. C'est en regardant ces statistiques que je ne vous écoutais pas tout à l'heure. Et je voyais qu'après cette victoire, qui est l'un des meilleurs matchs, peut-être le meilleur match de Lyon l'an dernier, j'ai pas tout en tête, mais en tout cas c'était vraiment un bon match face à une équipe supérieure, bah, ça avait enchaîné par 3 défaites et 3 matchs nuls en championnat. Donc c'est-à-dire 3 points en 6 matchs. Donc pas du tout capitalisé sur ce super match et donner l'idée que cette équipe joue un peu quand elle veut et que elle est plus apte à renverser des géants et à contre-attaquer plutôt qu'à faire le jeu face à des équipes un peu plus faibles. Donc du coup, je me dis que pour respecter cette logique-là de Lyon qui monte très haut et qui redescend très bas dans la foulée mais qui peut vivre sur ses grands succès pour quand même rester, enfin que son coach garde de l'aura et que cette équipe continue à être un petit peu crédible et menaçante malgré des résultats fluctuants. Je dis que Marseille va gagner à Lyon, c'est coté à 3-10. Alors faudra voir, là on enregistre jeudi après-midi, donc on n'a pas encore le résultat de Marseille en Ligue Europa. On ne sait jamais, il peut y avoir des blessures, etc. Mais je pense que le résultat de Marseille en Ligue Europa va pas tellement influer sur le match de dimanche, et je suis pas persuadé que ça soit les deux mêmes équipes et que donc les héros du jeudi soient fatigués le dimanche. Donc voilà, victoire de Marseille 3-10, ça me paraît plutôt bien payé, d'autant qu'en plus si tu regardes, alors c'est encore incomplet, genre par exemple contre Guingamp il y a qu'une seule mi-temps, mais la deuxième mi-temps de Marseille face à Guingamp est quand même vraiment très intéressante. T'as des individualités qui sont capables de marquer des buts à tout moment, presque plus que du côté lyonnais où tu as des individualités qui peuvent gagner des duels ou faire des super passes, mais je pense pas que tu es l'équivalent de Thauvin, même si Depay s'en rapproche. Donc voilà, petite surprise avec une victoire à l'extérieur de Marseille dans le bel outil, le formidable outil.
Après, c'est pas habituel pour le Marseille de Garcia d'aller gagner chez les gros, même de gagner contre un gros. Donc tu prends un petit risque sur celui-là.
Oui, mais de toute façon, il faudra bien que
Voilà, c'est
c'est-à-dire
ça.
quelqu'un gagne le match, pas forcément, mais dans tous les cas, tu as deux théorèmes qui s'affrontent. Donc, c'est
Donc
comme
il
quand une faible attaque affronte une mauvaise défense, il faut bien qu'il y en ait l'une des deux qui casse la série.
Ouais, donc il y aura match nul, c'est logique. Ton autre pari, ça concerne la Première Ligue et le Manchester United de José Mourinho qui va mieux depuis quelques semaines.
Qui va mieux, mais qui reste quand même un peu friable. C'est pas, il n'y a pas encore une maîtrise totale. Les résultats sont quand même en amélioration. Donc du coup, je pars sur un truc qui combinerait un peu les deux, avec une victoire de Manchester City face à Wolverhampton, mais les deux équipes marquent. Donc c'est-à-dire que Manchester gagne 2-1, 3-1,
Victoire de
114 à
United,
2.
parce que City a déjà joué à Wolverhampton, donc si.
Ah oui, c'est un très mauvais lapsus. Mais du coup, en fait, c'est pour ça que je me suis un peu viandé parce que c'est la suite de mon propos. Donc bref, victoire de Manchester United et les deux équipes marquent à 3. Et effectivement, la prestation et le match de Wolverhampton face à Manchester City m'a confirmé que cette équipe était quand même avait gardé une certaine forme de puissance qu'elle avait l'an dernier où ça jouait vraiment pas mal. Pareil, je les ai vus aussi la semaine dernière, je sais même plus contre qui c'était. Wolverhampton, enfin bref, peu importe, je le retrouve pas, c'est pas très grave, mais en tout cas, il y a une certaine puissance offensive. Il y a mon ami Adama Traoré, donc c'est une bonne équipe. Je pense que Manchester, qui a déjà pris 8 buts en 5 matchs de championnat, peut bien en prendre un. Mais malgré tout, le réveil de Pogba, notamment, qui a mis un doublé avec un superbe but, là, en Ligue des Champions, en milieu de semaine, et le fait que ça aille mieux fait qu'il y a quand même, je pense, un rapport de force en faveur de United. Wolverhampton, voilà, c'était à West Ham où il y a 1-0, mais où la fin de match West Ham prend totalement l'eau et ça peut faire 4 ou 5-0. Bref, en tout cas, je pense qu'il y aura des buts, mais j'hésitais entre nul et victoire de Manchester. Je vois quand même plutôt une victoire de Manchester, ne serait-ce que parce que sinon, ça commencerait à être un petit peu compliqué pour la course au titre. Et j'ai tendance à penser, mais c'est totalement, ça ne repose sur rien, mais que Manchester United restera quand même dans la course au titre et ne se retrouvera pas à 6 ou 7 points de Chelsea et Liverpool aussitôt dans la saison.
Merci Christophe pour ces paris
C'était pas
sur.
super bien expliqué, hein,
Si, si, c'était. T'as balbutié un peu sur le nom des équipes, donc on n'a pas compris, mais au moins ça te servira d'excuse si ton pari passe pas. Tu pourras dire que tu parlais de ça en fait et que tu parlais d'un autre match et que ça n'avait
C'est
rien à
mon
voir
côté
avec.
Laurent Bataille.
Alors je crois que c'est Pascal Bataille et
Ouais,
Laurent
je
Fontaine, donc
crois
même
aussi,
là-dessus,
ouais.
grosse, grosse difficulté.
Ah,
Mais
c'est
merci en tout
terrible.
cas. Merci en tout cas pour ces paris, on le rappelle, sur le site de PMU.fr, notre partenaire.
Oui, avec
Je
un
crois qu'on
code,
a.
voilà.
Ah, vas-y Florent, je te laisse la main.
Ouais, bah surtout si vous décidez d'aller parier sur PMU.fr, n'oubliez pas de rentrer le code promotionnel de Vue du Banc, c'est le code VDB. C'est pas compliqué pour s'en rappeler. Et voilà, bah ça arrange tout le monde si vous rentrez ce code en allant là-bas, donc voilà,
Et c'est
faites-le.
un peu le moyen de nous soutenir
Aussi.
indirectement.
Indirectement, c'est un moyen de nous soutenir et de nous aider dans cette entreprise de podcast qui ne demande qu'à se développer.
Entreprise est un bien grand mot pour ce qu'on fait. On a encore fait un peu long, je crois, Florent, donc on gardera les anecdotes espagnoles pour un
Pour
prochain
plus
épisode,
tard.
peut-être un peu moins long, un épisode du lundi où on aura moins de choses à dire. Les
Peut-être.
épisodes du jeudi sont toujours un peu trop riches. Il s'est passé encore beaucoup de choses,
Beaucoup trop.
notamment une histoire en lien avec le parc Astérix qu'on racontera peut-être. Mais
Peut-être.
voilà. Donc merci à Christophe de nous avoir proposé ces paris aussi bien maîtrisés. Merci à toi, Florent, pour des paris aussi originaux que d'habitude, puisque tu nous as parlé de Bordeaux. Tu as réussi à caler Bordeaux dans une semaine de Ligue des Champions. Bravo. On se retrouve lundi, du coup,
C'est ça,
pour
lundi, ouais.
reparler de football. On essaiera de trouver un thème séduisant, un thème intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire en ce début de saison, beaucoup de nouveaux coachs, et peut-être que ce sera là-dessus. Ciao!
Salut!
Cordialmente.
Vous pensez avoir tout compris? C'est le moment de parier sur PMU.fr, le numéro 1 du pari.